Chansomania. Chanson pop. Chanson festive.
Quand la folie me reprend.
Chanson à texte.
Au sommet de ma pyramide, sous dans le vide.
Toute la chanson. Chansomania. Présenté par cette ville.
Et c'est parti, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Chansomania. Un épisode spécial puisque nous passons tout un temps aujourd'hui et dans une dizaine de minutes avec Franck Loriot. Franck Loriot est photographe et graphiste spécialisé dans le domaine musical. Il a travaillé et travaille avec de nombreux artistes et a sorti le 9 octobre le livre Jean-Louis Murat, Photorama. Nous sommes avec Franck Loriot dans une dizaine de minutes. Alors pas de temps à perdre, Chansomania épisode 510, c'est parti.
Agora Côte d'Azur, radio, podcast, à écouter en DAB et FM et sur le web.
J'ai jamais cru à l'enfer, j'ai jamais cru aux cieux, du moment que je suis sur cette terre. Paraît qu'ici c'est le désert, paraît qu'ailleurs c'est mieux. Moi j'ai la tête à l'envers parmi eux. Et le nez disparu jusqu'à la d'aventureuse. Cette fois ma bouche baladeuse à la plus belle vue. Cette fois je rejoins chanceuse ma tribu.
Le groupe Louise XIV prend racine à Strasbourg au printemps 2023. Ils sont trois et le projet s'est construit sur leur désir individuel de recommencer à créer en collectif. Leur premier EP, Louise XIV, est sorti au mois de novembre. On vient d'écouter le titre « Fleur du mal ». Et puis si tu veux plus d'infos, beaucoup plus d'infos, tu retrouves Louise XIV sur tous leurs réseaux sociaux.
Chansomania avec Seb Dill.
Semblant d'y croire, comme si tu n'avais pas grandi. Et pour quelques pas dans le noir, je suis la petite souris. Et dans ta chambre à pas feutrée, je m'approche de l'oreiller. Ne pas te réveiller. Tu fais encore semblant d'y croire, pour que mes rêves soient éternels. Et pour quelques pas dans le noir, je suis le Père Noël. Dans le couloir à pas feutrés, j'écoute craquer le parquet. Ne pas te réveiller, c'est beau, l'enfant qui dort. Il y a peu de temps encore, c'est dans mes bras que tes yeux se fermaient, c'était mes doigts dans tes cheveux bouclés. C'est toi, l'enfant qui dort. Je voudrais vivre ça encore, que dans mes bras tes yeux se ferment, tu sais, toujours mes doigts dans tes cheveux bouclés. J'ai perdu le souvenir de la dernière fois où le sommeil t'accueillit contre moi. J'ai perdu le souvenir de la dernière fois où le sommeil t'accueillit contre moi. J'ai perdu le souvenir de la dernière fois où le sommeil t'accueillit contre moi. Les fleurs de ma mémoire se fanent avec le temps, elles sont emportées par le vent. Je fais encore semblant de croire que tu auras toujours 10 ans, et pour quelques pas dans le noir, je suis maître du temps. Je te regarde dans ton lit, mon petit bonhomme endormi. Et ton enfance est infinie.
L'autrice, compositrice, interprète Dantel a sorti son premier album, Cueillir, le 10 octobre dernier. Un univers artistique intimiste, et on peut retrouver Dantel seul en scène avec un piano et une guitare. Pour voir justement les dates de concert et retrouver beaucoup plus d'infos, cela se passe sur le site dantel.org. Après L'enfant qui dort que l'on vient d'écouter, voici À l'improviste.
Le temps de sortir les tasses, le temps que siffle la bouilloire, le temps que tu viennes à t'asseoir à la table basse. Le temps de sortir les tasses, le temps que tu dises bonsoir. Je passais tout près, par hasard, par hasard. De détourner le regard, d'étouffer ma mémoire et tout ce qu'il y avait dedans. J'ai juste pris le temps de me tourner vers la cafetière, d'écraser mes souvenirs d'hier, toi, dans ma vie d'avant. Ça fait combien d'années déjà? Ça fait combien d'années sans toi? Pendant longtemps, tu sais, j'ai été triste. T'as bien fait de passer à l'improviste. Le temps de sortir les tasses, qu'est-ce que je te sers à boire? Aimes-tu toujours le café noir, le café bien serré? J'ai trop de phrases à la surface, comment te dirais-je au revoir? Viendras-tu dans mes bras ce soir, dans mes bras bien serrés? Te caché mon trouble et ma vue se dédouble. Je vois deux hommes maintenant et je m'entends te dire tu as si peu changé. Ça me fait plaisir que t'aies sonné. Ça fait combien d'années déjà? Ça fait combien d'années sans toi? Pendant longtemps, tu sais, j'ai été triste. T'as bien fait de passer à l'improviste.
Comme je te le disais au tout début de l'émission, nous sommes maintenant en interview avec le photographe et graphiste Franck Loriot. Juste avant d'échanger ensemble chez lui, voici un titre de Manu Chao, extrait d'un des tout premiers albums sur lequel Franck a travaillé.
Agora Côte d'Azur, agoracôtedazur.fr.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Sulle liquide mattine, mezzi salitine, mezzi tutto sotto. Ci ho pessimo in un ultimo di arcana congo della Cina, se mi uscì il muore italiano. Mi girava un pesce di gaisin, tra la diatta e il wahid.
Pour planter le décor de la belle rencontre du jour, nous venons d'écouter Manu Chao avec le titre Clandestino. Photographe et graphiste spécialisé dans le domaine musical, Franck Loriot, qui nous reçoit chez lui, a réalisé les pochettes d'albums et photographies de nombreux artistes de la scène française, Manu Chao donc, mais aussi et entre autres Olivia Ruiz, Arthur H, Mio Sec, Pomme, Arnaud et Jean-Louis Murat sur de nombreuses années et de nombreux albums. Franck Loriot a sorti le 9 octobre le livre Jean-Louis Murat, Photorama. On va parler de tout ça et ça fait beaucoup de choses à dire. Bonjour Franck.
Bonjour.
Alors je suis très heureux que l'on se rencontre. Merci beaucoup pour l'accueil chez toi. On va planter le décor. Là on est chez toi, on a une belle vue sur Paris, sur toute la capitale. Est-ce que c'est ton lieu de travail aussi? C'est-à-dire est-ce que c'est ici que tu travailles, que tu passes les heures sur ton ordinateur à échafauder un peu tout ton travail?
Depuis quelques années, c'est mon lieu de travail, oui. Avant le Covid, j'avais un atelier avec des amis qui travaillaient tous dans la musique et donc on est resté très longtemps ensemble. Mais maintenant, je travaille seul ici, oui.
Alors, ton travail te fait faire de belles rencontres humaines. J'ai cité là quelques noms, mais il y a beaucoup de monde avec qui tu as travaillé ou tu travailles encore. La rencontre humaine, c'est le point de départ de l'envie de faire ce métier?
Non, le point de départ, c'est la musique. Mais c'est vrai que la rencontre humaine est très importante, et d'autant plus pour moi. C'est-à-dire, je pense que je suis même connu depuis toujours, en tout cas dans le milieu, comme étant quelqu'un qui privilégie beaucoup, enfin, qui accorde beaucoup d'importance à l'humain. Donc moi, dans ma carrière, j'ai fait énormément d'albums, mais j'en ai quasiment fait aucun. Il y en a peut-être un ou deux seulement où j'ai pas rencontré l'artiste, où on n'a pas échangé, où on n'a pas vécu un moment humainement important. Donc j'ai envie de dire, je ne fais que des belles rencontres dans mon métier, mais j'en fais beaucoup, c'est vrai. Ouais.
Alors le métier, il y a un point de départ, je me suis posé la question, est-ce que tu as démarré par la photo et est-ce que c'est la photo qui t'a amené à ce métier ou pas du tout ?
C'est l'inverse, j'ai débuté par le graphisme. Comme j'explique souvent sur une pochette de disque, il y a trois métiers qui se rencontrent. Il y a le graphiste, le photographe, éventuellement l'illustrateur, s'il y a un dessin. Et moi j'ai été graphiste pendant une dizaine d'années. Avant de devenir photographe. Et donc, les 10 premières années, je choisissais des photographes où on m'amenait des images déjà faites sur lesquelles je travaillais. Et je suis devenu photographe par la suite, mais je continue à faire aussi des pochettes sur lesquelles dont je n'ai pas fait la photo. Par exemple, l'album de Pomme, je n'ai pas fait la photo. J'ai fait uniquement le graphisme. Et évidemment, toutes mes premières pochettes, comme Yann Tiersen, Le Phare ou Manu Chao Clandestino, je ne suis pas le photographe, mais j'ai fait le graphisme. Après, on pourrait revenir sur qu'est-ce que c'est que le graphisme, c'est un vaste sujet.
Alors, si c'est un vaste sujet, on va peut-être pas s'étendre là-dessus, mais comment tu es arrivé dans ce métier ? Enfin, comment on arrive ? Alors, j'imagine par des envies et puis aussi des compétences, évidemment. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se lance et que ça fonctionne, en fait ? Comment on arrive dans ce métier ?
Ah, pour ma part, on arrive tard, hein, parce que moi, je suis devenu graphiste à 30 ans, à peu près. J'ai arrêté l'école très tôt, moi. J'ai pas fait d'études du tout. J'ai fait pas mal de métiers entre 17 et 30 ans. Et notamment, j'ai travaillé longtemps dans les imprimeries où j'ai fait plein de métiers. Je suis devenu graphiste dans les imprimeries, mais j'ai fait plein d'autres métiers plus techniques aussi. Et puis, les imprimeries, c'est un peu des usines hein, quand même. Hein. Mais c'est des usines un peu high-tech, mais quand même, quoi. Moi, c'est un moment de ma vie que j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, mais partout où j'étais, je me retrouvais toujours à faire de la création, donc je m'y suis consacré plus entièrement et je suis monté à Paris à 30 ans. Moi, ma passion depuis toujours, c'est la musique. Avant l'image, c'est la musique.
Alors moi j'ai tendance à dire que la pochette et le graphisme c'est la première porte d'entrée dans un album, en tout cas pour moi. Il y a aussi maintenant, alors on peut dire il y a les plateformes où il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui vont tomber sur un titre, mais en tout cas pour moi et pour toute une génération je pense que c'est vraiment la première porte d'entrée. Est-ce que ça met la pression parce qu'on se dit quand même il faut que ça arrive à planter une ambiance mais instantanément parce qu'on voit une photo ou une image instantanément, ça nous plante une image.
Oui, je dis souvent que la pochette c'est le visage de l'enfant qu'a conçu l'artiste en fait, c'est-à-dire qu'un album, c'est un an, deux ans de travail, parfois bien davantage. Et à la fin, il a un seul visage, comme un enfant. Et nous, on a cette lourde responsabilité. Ça peut être d'ailleurs angoissant pour un artiste, tout d'un coup, de devoir résumer à un visuel son travail. Mais c'est aussi la puissance de l'image dans la musique qui... Et cette image ne changera jamais. Pour une affiche de film, on modifie l'affiche en fonction des territoires, en fonction des rééditions, tout ça. Pour un visuel d'album, c'est toujours la même pochette qui nous survivra, à l'artiste comme à moi-même.
Comment ça s'est passé sur le travail ? Alors sur les premiers albums, je crois que le premier album c'est avec Yann Tiersen. Après il y a Manu Chao sur Clandestino, là on vient de l'écouter juste avant de parler ensemble. Comment ça se passe sur ces premiers albums ? Est-ce qu'on rencontre les artistes ? On discute beaucoup ? Par exemple, tiens, on a écouté Manu Chao donc sur Clandestino. Comment ça s'est passé ?
Eh bien sur Manu Chao, déjà chaque album, parce que Yann Tiersen, mon premier album c'est Yann Tiersen Le Phare, le second c'est Manu Chao. Et chaque album est différent, hein. On pourrait faire une émission sur chaque album presque, et chaque artiste. Manu Chao, ce qui est incroyable, c'est qu'il était déjà extrêmement connu quand même, du fait de la Mano Negra, mais il rentrait de 4 ans ou 5 ans de disparition en Amérique du Sud, et la maison de disques, je travaillais moi, donc j'avais intégré la maison de disques Virgin, dans laquelle je suis resté 3 ans, où je m'occupais du service graphique. Et on m'a demandé de faire la pochette de l'album de Manu Chao avec lui. Et donc il est arrivé avec un sac en plastique avec plein d'images qu'il avait collectées tout au long de ses voyages. Et puis c'est un peu comme s'il avait vidé le sac sur la table, quoi. En revanche, les photos, c'était, il y a eu une magnifique session de Yuri Lenquette qui l'a accompagné 2 semaines, je crois, en Amérique du Sud. Et donc, il est rentré avec énormément d'images. Et là, le premier geste du graphiste, c'est important, c'est de faire des choix, en fait. C'est-à-dire que le graphisme, c'est avant tout des choix. Et quand vous avez 500, 1000 ou 2000 photos, c'est de dire, ben, moi, je pense, enfin, moi, je vous propose de partir sur cette image ou ces images et de faire des choix restreints, quoi. Donc, moi, j'adore ça. Vous me donnez. Souvent, je dis, montrez-moi tout ce que vous avez en image. Et moi, je vous donnerai mon sentiment et mon avis.
Ça doit être finalement assez intéressant pour un artiste parce que c'est l'œil extérieur. Parce que l'artiste, une fois qu'il a, mettons comme là le cas de Manu Chao, toutes ces images, on peut plus, on est trop dedans, trop immergé et trop même émotionnellement marqué par ces photos, je pense justement.
Oui, et puis notre vision de nous-mêmes, elle n'est pas forcément juste. Et par exemple, quand un artiste est très beau sur une photo, il a du mal à pas la choisir en pochette. Alors qu'en fait, c'est pas pour autant la plus belle pochette. Et que moi, c'est souvent un danger. Et d'ailleurs, il y a même un phénomène un peu étrange, c'est quand un artiste est trop beau, il peut en devenir presque antipathique, ou alors on a l'impression que son propos est plus superficiel. Donc moi, je sers à ça, effectivement. Je sers à avoir un regard différent. Moi, je dis toujours, j'ai envie que tu sois beau, mais pour de belles raisons, quoi. Et parce qu'on aura montré un peu de ton intériorité, un peu de ta fragilité, parce qu'on t'aura montré peut-être un peu plus proche du public dans ta plastique, enfin j'en sais. À chaque fois, c'est un peu trouver le ton juste, en fait, le ton juste pour dire les choses et pour, comme tu disais tout à l'heure, pour être la porte d'entrée dans la musique. Moi, je suis un passeur, je suis là pour amener les gens à la musique et leur donner au maximum l'envie d'y aller et surtout au maximum de ne pas nuire, enfin de ne pas envoyer sur des mauvaises pistes, quoi. Voilà.
Et là, avec tout ce que l'on s'est dit déjà autour de ce métier, de ton travail, est-ce qu'il y a aussi des contraintes, parfois des maisons de disques qui donnent des directions, qui sont absolument contre le travail qui a été fait?
Dans mon cas, c'est rare. Parce que déjà, moi, les contraintes, je les intègre. C'est-à-dire que moi, mon souhait premier, c'est que l'album sur lequel je travaille, ce soit un succès. Donc je veux, mais pour des bonnes raisons là encore, c'est-à-dire l'idée c'est pas de faire des choses faciles d'accès pour un très grand public, l'idée c'est de bien identifier quel est le propos, qui ça peut toucher le plus et d'envoyer des signaux comme à ces gens-là. Parfois je reçois des artistes et je leur dis écoute, j'ai jamais écouté aucun de tes disques, mais c'est intéressant, parce qu'en fait maintenant que je le découvre j'aime bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'image qui fait que je ne me suis pas senti concerné, moi? Donc, je dis, cet album qu'on va faire ensemble, on va le faire pour les gens comme moi qui auraient dû t'écouter depuis longtemps et qui ne t'ont pas écouté. Donc, à chaque fois, je dis les choses très clairement aux artistes. Hein, et c'est intéressant, et eux, ça leur plaît aussi. Donc, moi, je suis là toujours pour une espèce d'ouverture. Ce qui m'amène donc à ta question, qui est de dire, les maisons de disques, d'une certaine façon, je travaille dans leurs intérêts. Puisque leur intérêt, c'est que le disque marche, et l'artiste aussi, et tout le monde en fait. On a tous les mêmes intérêts hein, dans tout ça.
Et les rencontres avec les artistes, elles se passent où? Elles se passent, je ne sais pas, dans des maisons de disques, dans un bar, complètement ailleurs, parce que c'est assez abstrait finalement pour nous qui, à la fin, voyons l'album et la pochette. Mais on n'a pas toute cette histoire de rencontre avant.
Certaines sont très très arrosées, hein, on ne va pas se mentir. mais il y a de tout. Moi j'aime bien... Cela dit, je préfère arroser après qu'avant, moi. Donc, moi, j'aime bien des premières rencontres un peu réservées, mais où on parle vraiment de travail, c'est-à-dire que là, on parle de ce qu'on va devoir faire ensemble. Puis on travaille, puis ensuite, on se fait un beau restaurant et on poursuit tard dans la nuit. Mais c'est important pour moi que chaque album est important, quoi. Enfin, quel que soit l'artiste, j'allais dire, quel que soit son niveau de notoriété, tout ça, moi, je me dois à chacun des artistes avec qui je travaille. C'est, pour eux, c'est l'album crucial de leur vie. C'est une lourde responsabilité, hein, et dont je suis conscient. Et je suis aussi conscient qu'en faisant énormément de pochettes, je prive d'autres graphistes de les faire. Et donc, je dois m'investir vraiment comme si c'était à chaque fois la première fois. J'essaye, en tout cas.
Alors moi j'avais une question aussi, alors complètement de néophyte, parce que c'est vrai que je ne suis absolument pas de ce métier-là, mais quand on parle, et notamment tu en parles dans le livre dont on va parler plus longuement en deuxième partie, mais tu parles de typographie. Alors la typographie, comment on travaille sur la typographie? Est-ce qu'on a des outils, des logiciels, enfin pour moi c'est une grande énigme ça, la typographie.
Bien oui, tout à fait. En fait c'est la typographie, c'est un travail de mise en page, mais enfin c'est le travail du texte, mais qui va au-delà de ce qu'on fait. En général, en France, on n'a pas une grande culture de la typographie. Et les anglo-saxons, par exemple, il y a des graphistes très célèbres chez les anglo-saxons, et il y a des graphismes d'albums, d'ailleurs, qui sont uniquement typographiques, sur lesquels il n'y a pas de photos, et tout ça. Il y en a beaucoup, et depuis toujours. Chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est un vaste sujet, ça vient de la culture religieuse des pays. C'est-à-dire que la culture française est une culture catholique et que les catholiques communiquent par l'image depuis toujours dans les églises. Le chemin de croix, c'est 10 ou 12 images consécutives, c'est presque de la bande dessinée. Les représentations du Christ dans les églises, on le voit en chair, en os, et on voit le sang et on voit tout. Les anglo-saxons, les protestants, ils ont proscrit la représentation de Dieu, puisque dans les Écritures, il est interdit de représenter Dieu, et donc ils ont la culture du verbe, ils sont revenus à la Bible, au texte, donc ils ont la culture du mot et la culture du signe, qui est les signes, c'est deux traits pour faire une croix, donc ils ont la culture graphique, quand nous on a la culture photographique, et par extension nos pochettes de disques à nous, c'est un peu des images pieuses en fait. C'est-à-dire qu'on est encore un peu dans l'idolâtrie, quoi. On a besoin de... Je dis aux artistes, vous êtes les saints laïcs, quoi. On fait... Et c'est vrai, c'est des icônes. D'ailleurs, on dit une icône, une idole. Voilà, l'idole des jeunes. Les idoles, hein, c'est des dieux un peu païens, quoi.
Avec tous les artistes avec qui tu travailles, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a énormément. Est-ce qu'il y en a avec qui tu entretiens des liens privilégiés, ou tu gardes contact, ou vous vous suivez sur de nombreuses années, peut-être même sans retravailler ensemble, d'ailleurs?
Ah oui, c'est pas déterminé. Après, chaque histoire est différente. Il y a de très grandes amitiés. L'histoire que j'ai avec Jean-Louis Murat, j'ai eu aussi avec Yann Tiersen, par exemple, ou avec Gauvin Serres, des moments vraiment sur beaucoup, beaucoup d'années, de rapports très intimes et tout ça, et de grandes amitiés, et plein d'autres, hein, évidemment. À chaque fois, il y a une amitié qui naît, en fait, presque. D'abord, on ne peut pas photographier quelqu'un sans lui vouloir du bien. Sans l'aimer, sans qu'il y ait une vraie rencontre. C'est une mise à nu d'être photographié. Et photographier, c'est une responsabilité aussi. Et donc souvent, en quelques heures, on acquiert une intimité incroyable. Et on peut se recroiser des années plus tard, on se connaît. On se connaît vraiment. C'est très étrange, quoi. Donc moi, je suis très attaché à ça. Et puis, c'est des artistes magnifiques sur lesquels j'ai la chance de travailler. Bon, non pas qu'il y en ait des pas magnifiques ailleurs, mais voilà, j'ai un lien particulier avec tous ceux avec qui je travaille, clairement. Ouais.
Des portes de Hèze à celles de Fréjus. Vous écoutez Agora Côte d'Azur en DAB+ et sur Monaco Menton en FM sur 88.9.
Je me souviens d'une terre brûlée alentour, d'une vallée de larmes où chacun cherchait l'amour. Je me souviens des frémissements les plus légers, je me souviens. En demi-conscience, j'allais au fond des ténèbres, sous ta robe blanche, la nuit est surnaturelle. Je me souviens d'une voile tendue au fond de la nuit, je me souviens. Je me souviens de monde dans l'univers, je me souviens de l'appel de la lumière, d'une dame en noir qui gifle le loup des mers, je me souviens. Je me souviens par la bride dans l'obscurité, Je me souviens de l'altitude où je me trouvais. Je me souviens boire dans un même ruisseau. Je me souviens. Je me souviens d'un assassin dans la montagne, une digue, un pont, la bataille de Wagram, d'une milanaise et d'un qui vient à mourir. Je me souviens. Je me souviens de matins passés hors de France. Je me souviens du regard des gens de Florence. Je me souviens de savantes mains de bourreau. Je me souviens. Je me souviens que le cœur frémit d'amour, que l'amour s'en va si orgueil avec amour. Je me souviens qu'on me déshabille à la nuit. Je me souviens. Je me souviens du parfait vassal que j'étais, pensant ta voix basse, pourquoi veut-elle me tuer? Je me souviens comme agité de tremblement. Je me souviens. Je me souviens que le père venait de mourir, d'une armée anglaise piétinant mes souvenirs. Je me souviens de Murat aux portes de Naples. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens, 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 je me souviens.
Franck Loriot, là, on vient d'écouter un titre de Jean-Louis Murat, c'est Je me souviens, extrait de l'album Il Francese. Ça nous amène à parler de, bah, du livre que tu as sorti là le 9 octobre, Jean-Louis Murat, Photorama, où là tu racontes en fait l'aventure, la grande aventure humaine et de travail avec Jean-Louis Murat à travers ce livre, où il y a tout un texte qui raconte vraiment votre travail et votre amitié, où on retrouve aussi des photos. Moi j'aimerais peut-être que tu nous racontes la première rencontre avec Jean-Louis Murat. Comment ça s'est passé? C'était dans quel contexte?
Bien, c'était justement après avoir fait, après avoir travaillé avec Yann Tiersen et Manu Chao, qui sont quand même deux très forts tempéraments, hein, très exigeants, et puis avec des consciences politiques très fortes. Enfin, moi, j'aime bien les artistes où il y a plein de tiroirs comme ça, où, notamment un rapport au monde, un rapport aux valeurs sociales et tout ça, humaines, importants. Et donc, bon, je pense que la maison de disques a considéré que je m'en étais pas trop mal sorti, et ils se sont dit, maintenant, on va lui confier Jean-Louis Murat. Et ça, à l'époque, je m'étais dit, bon, bah, alors là, si j'arrive à gérer Jean-Louis Murat, là... Oui, bizarrement, je dis souvent, en m'amusant, Jean-Louis Murat, c'est peut-être de tous les artistes avec qui j'ai travaillé, celui qui avait la plus mauvaise réputation, et c'est celui dont je suis devenu quasiment le plus proche, entre guillemets. Donc, c'est paradoxal. On s'est rencontrés un jour du mois de mars 1999, je crois, ou 98, dans sa ferme en Auvergne, envoyé par la maison de disques. Et voilà. Et moi, j'étais jeune graphiste fraîchement arrivé à Paris, et très intimidé de rencontrer ce personnage. Mais qui était par ailleurs extrêmement accueillant et sympathique et impressionnant. Et impressionnant de culture, impressionnant de référence, d'intelligence. Non, vraiment, c'est une journée assez inoubliable. D'ailleurs, je commence évidemment mon récit dans le livre en racontant en détail cette journée.
Et on sent sur une journée comme ça que ça va amener après, qu'il va y avoir une... alors, je ne sais pas si on peut employer le mot amitié, d'ailleurs, tu vas me le dire, mais qu'il va y avoir en tout cas toute cette aventure derrière.
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que... Et effectivement, moi-même, dans le texte, j'interroge l'amitié, parce que... quand même, avec Jean-Louis, on pouvait aussi rester 2 ans sans s'appeler, on se voyait finalement... Pas seulement pour travailler, mais essentiellement pour travailler quand même. Après, lui comme moi, on travaille tout le temps, donc forcément, on se voit que pour travailler, quoi. Non, en fait, pour être honnête, j'interroge ça et un jour, c'est sa femme Laure qui m'a dit récemment, qui m'a dit bah, comme vous étiez amis, tout ça. Et je lui dis ah, tu penses qu'on était amis alors? Enfin voilà. Mais j'aime bien ne pas décréter une proximité. En tout cas, on avait une vraie complicité, ça c'est sûr, et on avait un lien très fort.
Alors, vu de l'extérieur et de suite à la lecture du livre, il y a quand même, enfin, tu racontes dedans où il y a plusieurs étés où vous vous retrouviez en famille, enfin, c'est sans travailler. Donc, c'est vu de l'extérieur. Moi, j'emploierais le mot amitié, il me semble effectivement.
Oui, tout à fait. On peut. C'est plus comment dire une forme. C'est une forme de respect que de pas me décréter ami de Jean-Louis Murat par rapport aussi à tous ses amis de toujours. Ses amis d'Auvergne qui eux vivaient vraiment avec lui au quotidien, le connaissaient depuis toujours et tout ça. Moi, en tout cas, je préfère qu'on me dise ami avec lui plutôt que moi le décréter. Mais on a quand même fait des parties de football avec les Murat contre les Loriot, Jean-Louis et ses enfants contre moi et les miens. Enfin, on a bien rigolé quoi. Et oui, en fait, c'est d'ailleurs ce moment-là où je pense que c'est le moment de bascule, c'est quand Jean-Louis m'invite à passer chez lui l'été avec mes enfants. Et on est passé juste quelques heures la première fois, mais on s'est retrouvés tous dans le jardin, ses enfants jouant avec les miens. Et de ce jour-là, je pense que Jean-Louis a fait tomber aussi les barrières qu'il peut mettre d'habitude avec les gens dans le métier, entre guillemets, et qu'on est passé vraiment dans autre chose, quoi. Et ensuite, on a pu expérimenter beaucoup de choses ensemble. Je pense, parce que ces histoires de s'habiller en général d'empire et tout ça, je pense qu'il ne les faisait que parce qu'il était en confiance absolue, qu'il savait qu'on allait faire quelque chose, il savait ce qu'on allait faire. Il savait comme à quel endroit, à la fois d'humour et en même temps de sérieux, on allait être, et d'exigence artistique. Et je pense que c'était ça qui l'intéressait, comme moi.
Alors là, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que pendant de nombreuses années, tu as été le seul autorisé, en tout cas le seul à photographier Jean-Louis Murat.
Oui, alors dire combien d'années, je ne sais pas, parce que je n'ai pas mené une enquête, mais enfin, oui, je sais que pendant un certain temps... Non, d'abord, Jean-Louis Murat, il a cessé pendant une dizaine d'années... il s'est photographié lui-même après Mustango, d'ailleurs à partir de Mustango. La photo de Mustango, c'est une photo de sa femme Laure, et ensuite il s'est photographié lui-même pendant 10 ans. Puis il m'a demandé de venir, parce que j'étais devenu photographe entre temps, il m'a fait venir, et là a démarré une autre période où je pense il s'est servi de moi pour se réconcilier avec la photographie. Et là, pendant effectivement, je sais pas, 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'étais le seul photographe autorisé. Absolument. Et puis ensuite, il a repris progressivement. Il a fait Babel avec Julien Mignot, notamment. Et puis, il a travaillé avec M&M en graphisme aussi, avec d'autres photos. Enfin bref, c'est... Voilà. Je faisais un peu... Pendant longtemps, je faisais un album sur 2 ou sur 3. Puis à la fin, je les faisais tous. Mais en tout cas, c'est normal. Hein, c'est comme les musiciens. À chaque tournée, ils changeaient d'équipe.
Et alors j'ai l'impression que, en tout cas c'est pas une impression d'ailleurs, que, parce que tu le racontes dans le livre, mais que les séances photos s'improvisaient presque à la dernière, enfin dans les dernières minutes ou dans la dernière heure avant que tu repartes, si tu restais 2, 3, 4 jours, on a l'impression un peu qu'ils repoussaient ça peut-être par jeu, je ne sais pas, qu'à la fin en fait il restait quelques minutes pour faire des photos.
Je pense qu'il est comme moi, comme on est des autodidactes et d'anciens cancres, je pense, enfin je sais pas s'il était cancre d'ailleurs, mais moi si j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas, ou je le recule, ou je contourne. Mais en même temps, ça faisait aussi partie, c'est un peu un truc de la campagne, c'est-à-dire j'ai réalisé, en fait on était un peu comme deux maçons qui vont construire un mur, quoi. D'abord on se retrouve, on bavarde, on boit un coup, on mange un morceau, et puis à un moment on dit bon bah là faut y aller, quoi, et on y va. Mais ça fait partie du protocole aussi et puis c'était aussi mettre l'humain avant tout. Souvent on se retrouvait, on déjeunait, et puis après on voyait ce qu'on allait faire. Et on n'avait rien préparé en général, rien du tout. Même le stylisme s'improvisait, à part le général d'Empire, où là il avait fallu faire travailler un peu des costumiers.
Et dans ce livre, il y a une série de photos, alors que moi j'aime particulièrement, d'ailleurs il y a une des photos de cette série qui est la couverture du livre. On peut raconter l'histoire de cette photo, je crois que c'est pris dans une ferme à côté de chez lui.
Eh bien oui, en fait, quand j'ai retrouvé Jean-Louis, c'était la première fois qu'on faisait des images ensemble. Et je lui ai apporté mon livre Tout est calme. J'ai fait un livre qui, photographique. J'ai fait deux livres dans ma vie. Le deuxième, c'est sur Jean-Louis, et le premier, c'est celui photographique, dans lequel il n'y a aucun être humain. Il n'y a que des maisons vides, des scènes vides de la vie quotidienne. Et Jean-Louis, quand il a vu ça, ça l'a beaucoup intéressé. Il m'a dit, écoute, j'ai une idée. Et il a réouvert la maison de son voisin, dont il était très proche, qui était décédé quelques mois auparavant. Et il avait racheté cette maison, je pense, autant par affection pour son voisin, surtout pour ça, et pour garder son univers intact. Et donc, on a réouvert la maison. Il a réouvert la maison. Et donc, j'ai vu Jean-Louis ému ouvrir chaque volet, ramener la lumière dans la maison. Et je l'ai fait asseoir dans la cuisine, et je lui ai demandé de s'asseoir sur cette chaise. Et je sentais un trouble vraiment particulier. Et je lui dis, Jean-Louis, on est en train de faire plus que des photos là, il se passe quelque chose. Et il me dit, oui, ça fait 30 ans que je viens dans cette maison, jamais je ne me suis assis sur cette chaise. C'était Émile qui s'asseyait là. Et je vois enfin ce qu'il voyait. Et il regardait par la fenêtre le jardin d'Émile. Et il était extrêmement proche, c'était un lien presque filial avec ces personnes. C'était un frère et une sœur qui vivaient là.
Moi, il y a quelque chose que j'ai lu aussi dans ce livre, c'est que, et c'est, à mon avis, ça raconte beaucoup Murat, c'est que tu dis, tu parles d'une fois où tu es allé le voir en concert, et tu dis que tu n'aimes pas les choses sympas, les concerts sympas. Moi non plus, parce que j'ai tendance à dire ce qui est sympa, 10 minutes après, on l'a oublié. Il faut que ça marque en bien ou en mal, ça nous appartient, ça a à voir avec notre vécu et notre sensibilité. Mais j'ai l'impression que ça raconte aussi Murat, c'est que c'était un personnage entier et où on l'adorait ou on le détestait.
Oui, tout à fait. C'est ce que j'aimais aussi chez lui, c'est qu'il était clivant. J'ai toujours Murat. Il sortait du cadre, quoi. Si on lui disait de rester assis là, il se levait, il partait. Hein. Donc c'est ça. J'ai toujours aimé ça aussi. Et puis hier soir, j'étais à la Cigale pour voir le concert d'Astéréotypie, et j'y ai retrouvé d'une certaine façon. Jean-Louis Murat, il parlait de la sauvagerie et l'innocence. Et lui, il était porteur à la fois de sauvagerie et d'innocence. Et moi, à chaque fois qu'il y a de la sauvagerie et de l'innocence dans la musique, je m'y retrouve. Mais effectivement, j'ai aimé le fait qu'il sorte du cadre tout le temps.
Nous en allions les trois nés cassettes. Les kids ont fait le tour. Il n'y a plus qu'un mot dans la montagne qui je me souviens de tout. Did I got a message for you? Did I got a message for you?
Pour les lieux des photos, alors il y a pas mal de photos qui sont aussi prises en extérieur. Est-ce que c'était à chaque fois autour de chez lui, de sa ferme en Auvergne, où il te disait, bah tiens, je t'emmène là dans les bois et puis on va faire des prises de vue?
Non, non, nous on bouge, le moins on bouge, le mieux on se porte. Non, en fait, on avait c'était exprès, c'était un jeu un peu, hein. On s'amusait aussi, on préparait rien, donc on disait, bon, bah on sortait de la maison, enfin... Allez, et puis on a fait plusieurs fois des photos dans le même endroit. On a fait plusieurs fois des photos dans le même grenier. On revenait trois ans après, on revenait dans la même pièce refaire des photos. Et ça devait être très différent, absolument. Mais c'est ça aussi, la musique s'est répétée tout le temps et que ce soit toujours différent. Mon métier à moi aussi, d'une certaine façon. Donc en fait, on était des artisans qui remettaient... l'ouvrage sur le métier et qui devait produire complètement autre chose à chaque fois.
Et puis avec des choses aussi que l'on ignore, nous, quand on n'est pas au courant de tout ce travail-là. Mais c'est vrai qu'à la lecture du livre aussi, j'ai vu le travail sur l'album Il Francese, ou un album que moi j'ai en vinyle, et où la photo, en fait, n'est pas du tout prise sur la période où est sorti l'album, mais date d'une série de quelques années avant, en fait.
Oui, absolument. Il Francese, c'est une histoire particulière parce que à chaque fois... il y avait quelque chose de décrété. Et là, on me dit, Jean-Louis ne fera pas de photos. Mais cette fois, il ne fera vraiment pas de photos. Parce qu'il est arrivé qu'ils disent qu'il ne ferait pas de photos et qu'au final, on en fasse. Et là, on m'a dit, là, il ne fera pas du tout de photos. Et donc, j'ai replongé dans mes archives pour voir ce que j'avais. Et s'il y avait quelque chose, une image qui pouvait... Et en fait, c'est un miracle, cette image, qui était complètement sous-exposée, complètement... Parce que j'avais pas du tout imprimé cette image, je m'en souvenais pas. Et voilà. Et là, de la retrouver, c'était incroyable. C'était comme une évidence. Et je pense que c'est même la, presque la seule pochette où j'ai présenté si peu de propositions et où Jean-Louis a accepté tout de suite. C'est une des pochettes de toute ma production sur laquelle j'ai eu le plus de retours. Bizarrement, parce que c'est la moins formatée. On voit une forme, juste la moins formatée. On voit une forme informe qui sort d'un magma. Voilà. Et au final, c'est ces pochettes-là qui parfois procurent des émotions. Il ne faut pas être trop sage dans notre métier, il ne faut pas être trop obéissant.
Tu travailles avec quel matériel ? Est-ce que tu es toujours en argentique ?
Hélas non, depuis le Covid. Jusqu'au Covid, j'ai réussi à faire de l'argentique, mais le prix des pellicules a explosé, le prix des budgets pour faire les albums a explosé, mais en sens inverse. Et au final, c'était plus possible pour moi financièrement. Sur une session de portrait, pour la musique, c'est un moment très important. On crée les conditions d'un moment, mais il ne faut pas se rater. On va devoir faire une pochette de disque, on va devoir faire plein de photos de presse. Donc il faut faire quand même un certain nombre d'images. Et en argentique, ça revenait à trop cher pour finir. Donc sur mon travail personnel, je reste en argentique. Parfois, je fais quelques images argentiques sur mes sessions. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais j'ai été obligé de passer au numérique quand même, à mon grand regret.
Tu travailles sur quoi en ce moment ? Est-ce que c'est plus ou moins secret à chaque fois qu'il y a des projets ? Ou est-ce qu'on peut en parler ? Ou est-ce que c'est calme ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a plein de projets ?
En ce moment, je travaille beaucoup, beaucoup sur mon livre, parce que je m'occupe aussi de la promotion, puis je monte des expositions, des conférences, pas seulement sur le livre d'ailleurs, sur la création de pochettes de disques en général. Non, il y a un album dont je suis très fier, qui vient de sortir, c'est l'album d'Alexis HK et Benoît Dorémus, Inavouable, dont j'avais fait le visuel de tournée il y a 2 ans, et toutes les images en fait du spectacle, et je suis très heureux que ça devienne un album qui vient de sortir là, et voilà, c'est parce que chaque fois que je les ai vus sur scène, je me suis dit, il faut en faire un disque. Et ça y est, c'est fait.
Pour retrouver toutes les infos, si on passe sur le site franckloriot.com, est-ce que c'est là où ça centralise à peu près tout ce que l'on peut et doit savoir sur toi et ton travail ?
Oui, absolument. On retrouve une grande partie des pochettes que j'ai faites, pas toutes, mais quand même beaucoup, et des portraits. Et on peut aussi, acheter le livre en passant par le site. On peut aussi, j'ai mis récemment la possibilité d'acheter des tirages photos et aussi d'avoir une idée de combien ça coûte un tirage photo, parce que c'est toujours, on n'ose pas demander. Et donc j'ai mis en ligne pas mal d'images qu'on peut commander directement, mais on peut aussi en commander d'autres si on le souhaite. Voilà.
Merci beaucoup Franck Loriot. Est-ce que tu souhaites, je ne sais pas, rajouter quelque chose, parce qu'on a vu pas mal de choses autour de ce métier. J'ai essayé d'avoir des questions qui, moi, me paraissaient intéressantes sur ce métier que je découvre, mais peut-être qu'il y a des aspects qu'on a oubliés, pas abordés, ou sur la vie de Jean-Louis Murat, puisque là, on parlait de ce livre en particulier.
Non, je voudrais à mon tour de te remercier de m'avoir proposé cet entretien. Non, je voudrais dire que je suis extrêmement heureux de voir Jean-Louis Murat en ce moment dans les grands titres de presse qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière, et dans ton émission par exemple. Je suis heureux qu'on parle de Jean-Louis Murat, qu'on pense à Jean-Louis Murat et qu'on écoute Jean-Louis Murat, parce que c'est un artiste majeur et vraiment un des plus grands, je crois.
Bah, y a peut-être l'occasion de l'écouter encore une fois. On peut se quitter avec un titre de Jean-Louis Murat que je vais peut-être te laisser choisir, je sais pas quel titre on pourrait écouter.
Alors là, c'est un choix difficile. Il y en a un pour lequel j'ai une tendresse particulière, mais qui est un des plus étranges, je crois, c'est Baby Carny Bird, que j'adore, où c'est une espèce de déconstruction du principe même de chanson. Mais le morceau emblématique du livre, c'est Accueille-moi paysage. Parce que justement, après la session photo dans cette cuisine, je lui ai dit, écoute Jean-Louis, il faut que je te dise, un soir, j'ai commencé à écouter un titre... Accueille-moi paysage, et je l'ai écouté ensuite 40 ou 50 fois consécutives toute la nuit, et il a été très troublé, et il m'a dit, écoute, c'est le morceau que j'ai écrit en rentrant de l'enterrement d'Émile, chez qui on venait de faire les photos.
Merci beaucoup Franck Loriou de nous avoir accueillis chez toi. Je rappelle que l'on retrouve toutes les infos sur le site franckloriou.com et puis le livre sorti le 9 octobre, Jean-Louis Murat Photorama, qui est disponible sur ton site et puis distribué un petit peu partout. En tout cas, on le trouve, on le cherche et on le trouve. Merci beaucoup Franck Loriou et à très bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Agora Côte d'Azur, radio, podcast, à écouter en DAB et FM et sur le web.
Sans mettre à droite, pas de quoi te faire de moi. Tous nos virages sans mettre à droite, voilà la maison. Sans mettre à droite, pas de quoi te faire de moi. Dernière congère sur une dernière clôture qui gémit. Dernière lumière sur un dernier abat-jour. Dernier bruit. Dernière prière au grand Dieu de la santé. Dernier je t'aime, mon dernier. Dernier nuage aperçu sur l'aiguiller. Dernier feu. Dernière étoile s'enfuyant vers le forêt. Dernier vœu. Dernier soupir à la fuite du bonheur. Dernier enfant qui naît de tout son cœur. Oh, accueille-moi paysage, accueille-moi paysage, accueille mon vœu, accueille mon vœu. Fais-le-moi paysage, fais-le-moi paysage. Un nuage aux cieux, un nuage aux cieux. Dernier secret dans sa rigole en sapin. Dernier son dessus la mer. Un dernier signe matou qui attend. Dernière plainte, dernière grève sur les blés. Dernier frisson aux dernières. Accueille-moi paysage, accueille mon vœu, accueille-moi. Fais-le-moi paysage, fais-le-moi paysage. Un nuage aux cieux, un nuage aux cieux. Tout mon virage sans mettre à droite, voilà la mer. Mettre à droite, pas de quoi te faire de mourir. Dernière rase dans un champ de plumes vertes. Dernier roux. Dernière envol d'une dernière alouette à la nuit. Dernier cheval. Dernier lapin dans son sang. Dernière histoire qui raconte une chanson. Oh, accueille-moi paysage, accueille-moi paysage. Accueille mon vœu, accueille mon vœu. Fais-le-moi paysage, fais-le-moi paysage. Accueille-moi paysage, accueille-moi paysage, accueille mon vœu, accueille-moi, fais de moi.
La Chansomania, oui, mais Chansomania, eh bien, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, sur ta radio préférée. Et puis, d'ici là, si tu es en manque de Chansomania, tu retrouves les podcasts sur toutes les plateformes de podcasts, ainsi que sur toutes les plateformes musicales. Et puis, tu retrouves aussi ces mêmes podcasts avec plein d'infos sur le site sebdil.fr, cela s'écrit sebdil.fr. Tu retrouves aussi Chansomania sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a plein de moyens de se retrouver finalement. À la semaine prochaine et d'ici là, surtout, tu n'oublies pas de vivre en musique, c'est tellement important. On se quitte en chanson vinyle avec aujourd'hui Nicolas Perrac et mon père. Bye.
Agora Côte d'Azur, agoracôtedazur.fr.
Quand vous dansiez en ce temps-là, pas besoin de pédales wawa. C'était pas la bossa nova, mais ça remuait bien déjà. Les caves étaient profondes et la ronde ne s'arrêtait pas. Un vieux piano bastringue et les dingues tournoyaient déjà. Et Juliette avait encore son nez, Aragon n'était pas un minet. Sartre était déjà bien engagé, au café de Flore il y avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer, il hantait déjà les boutiquiers. Dans sa chambre on croquait du café. Il ignorait qu'un jour j'en parlerai. Quand vous flirtiez en ce temps-là, vous vous touchiez du bout des doigts. La pilule n'existait pas, fallait pas jouer à ces jeux-là. Vous vous disiez je t'aime, parfois même vous faisiez l'amour. Aujourd'hui deux salades, trois tirades et c'est l'affaire qui court. L'oncle Adolphe s'était déjà flingué, son Eva l'avait accompagné. Des fois qu'il aurait voulu draguer, qui sait si là-haut il n'y a pas des folles. Et mon père allait bientôt planter cette graine qui allait lui donner ce débile qui essaie de chanter. Il ignorait que viendraient mes cadets. Quand vous chantiez en ce temps-là, l'argent ne faisait pas la loi. Les hit-parades n'existaient pas, du moins ils n'étaient pas de bois. Tu mettais des semaines, parfois des années. Si t'avais pas de trip, ta boutique tu pouvais la fermer. Et Trenet avait mis des années, Brassens commençait à en baver. Et Beko astiquait son clavier, Monsieur Brel ne parlait pas encore des folles. Et mon père venait de débarquer, là où restait quelque humanité, là où les gens savent encore parler de l'avenir, même s'ils sont fatigués. Et Juliette avait encore son nez, Aragon n'était pas un minet, Sartre était déjà bien engagé, au café de Flore il y avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer, il hantait déjà les boutiquiers, dans sa chambre on croquait du café, il ignorait qu'un jour j'en parlerai.